L'entraînement pour vivre une vie stratégique vous présente la série intitulée « Surmonter les blessures dans nos vies et découvrir la joie de vivre une vie stratégique » par Dennis Peacock, traduction Meia Cortet. Voici le quatrième principe, la quatrième vérité. Semer des semences de vie et de bénédiction. Rappel. Dans le troisième enseignement, nous avons parlé de la souveraineté de Dieu d'une part et de la manière dont nous sommes appelés à vivre si nous reconnaissons réellement sa souveraineté dans toute notre vie. Nous avons dit comment nous pouvons l'exercer dans notre esprit et comment nous pouvons accepter et saisir l'entraînement que Dieu désire pour nous tous les jours. J'aimerais vous faire une petite démonstration. Entre parenthèses, Dennis va faire là une démonstration de prise de karaté avec un des étudiants. Prenons l'image d'un pasteur. Je vois des gens qui l'écoutent tout en étant complètement coincés, prisonniers. Quelle prise l'ennemi a-t-il sur eux? Notre travail est de défaire ces prises de l'ennemi. C'est ce que les pasteurs, les enseignants et les parents, tout d'abord, doivent pouvoir faire dans la vie de ceux qui leur sont confiés, jour après jour. Pour que la démonstration soit plus frappante, j'aimerais être une femme, car vous pensez actuellement que parce que je suis un homme fort, je vais pouvoir me sortir de cette prise. Mais ce n'est pas la vérité. Je vais sortir de cette prise par la connaissance, pas par la force, ni la puissance, mais par l'esprit. J'ai besoin d'un appui. Quand je l'ai, je m'y appuie, et je peux alors me défaire de n'importe quelle prise, quelle que soit la force de mon ennemi. Quand j'ai cet appui, que je trouve le bon angle, alors mon adversaire tombe obligatoirement. Je peux en faire ce que je veux. Pourquoi est-ce que j'ai fait cela? Dieu veut que nous apprenions à nous défaire de la prise ou des prises du péché sur notre vie. Il dit « Mon peuple meurt par manque de connaissance ». Savez-vous ce qui me motive en tant que pasteur? Ce qui me motive, c'est d'enseigner comment nous défaire des liens de l'ennemi, comment sortir des prisons de l'ennemi, de ces prises du péché par la puissance de la parole de Dieu. Je veux vous poser une question. Savez-vous comment s'extériorise la névrose? Je crois, en tout cas, une des manières dont elle s'extériorise, c'est qu'on refait jour après jour, la même chose, même si c'est mauvais. En espérant qu'un jour, peut-être, tout à coup, miraculeusement, le résultat va être différent. Dans combien de ces prises t'es-tu trouvé aujourd'hui? Prises dans lesquelles tu t'es déjà trouvé au moins 300 fois dans ta vie. Et tu ne sais toujours pas comment t'en défaire. Par la colère, la fureur, la frustration, la convoitise, l'avarice, la jalousie, l'envie, le déni. Tu te retrouves dans cette prise et tu ne sais plus comment agir. Nous avons besoin d'une réforme dans le corps de Christ. Nous avons besoin d'enseignants qui nous apprennent à utiliser réellement la parole de Dieu dans la vie réelle, au lieu de nous remplir la tête avec des connaissances bibliques uniquement. Quelle est l'utilité d'un verset biblique si tu ne sais pas l'utiliser dans ta vie réelle? Est-ce que vous croyez que Dieu vous a donné les versets bibliques pour pouvoir simplement les savoir, les mémoriser? La religiosité nous fait croire cela. La religiosité nous dit que le but de la Bible, c'est de savoir, mais pas de savoir l'utiliser. Nous devons apprendre à utiliser la parole de Dieu parce qu'elle est efficace et pleine de puissance. Elle est destinée à être utilisée. Jésus lui-même utilisait la parole pour se défaire des prises que l'ennemi voulait avoir sur lui. Quand tu étudies l'Écriture sainte, tu ne la lis pas pour la mémoriser. Si tu veux la mémoriser, c'est super, mais ça n'a aucune valeur à moins que tu l'utilises dans ta vie de tous les jours. Tu as peut-être fait un trip religieux, égoïste. Tu as peut-être reçu 5 ou 6 petites étoiles à l'école du dimanche parce que tu as su les versets par cœur. Mais tu te trompes toi-même si tu ne les utilises pas. Je crois aussi que nous avons su de moins en moins de versets par cœur parce que nous ne savions pas les utiliser au bon moment. Surmonter les blessures de la vie. Je vous parle non seulement comme un enseignant, mais je désire que vous m'écoutiez comme si j'étais votre coach personnel. Je ne suis pas là uniquement pour vous enseigner, d'accord? Je suis là, dans l'esprit, pour vous apprendre à vous défaire des prises de l'ennemi. Certains d'entre vous doivent saisir dans leur esprit ce que je suis en train de partager. Quand j'ai dit dans la dernière leçon que vous devez envoyer l'ennemi en enfer, je ne l'ai pas dit pour vous blesser. Mais je l'ai dit parce que je veux vous donner une partie de cet esprit guerrier que Dieu a mis en moi. D'accord? Jésus nous a appelés à être des guerriers. Certains ici sont tellement gentils qu'ils oublient de se battre. La punition, c'est que vous restez ou que tu restes complètement prisonnier de l'ennemi. Et tes enfants sont prisonniers de l'ennemi. Parce que tu n'es pas en train de les entraîner, de leur apprendre à se défaire de ces prises. Par exemple, tu ne les entraînes pas à sortir de la prise de l'égoïsme. Tu ne les entraînes pas à ne pas interrompre les gens quand ils parlent. Tu ne leur apprends pas à être patient ou de savoir gérer leurs émotions. Pourquoi? Parce que probablement personne ne te l'a appris ni donné l'exemple. De ce fait, tu ne te sens pas malade à cause de cela, mais tu réagis. Cependant, si alors que je parle, tu te sens mal par rapport à cette question, n'en reste pas là. Cela ne sert à rien de se sentir mal, c'est comme un mauvais jeu. Entre parenthèses, et parfois on oblige même les autres à y entrer. Je maudis ce jeu de se sentir mal, c'est futile. Ne te laisse pas te sentir mal. Ce que je désire, c'est que nous nous sentions assez mal pour vouloir que cet état de choses change. Nous allons parler maintenant du quatrième exercice. Semer la vie et la bénédiction. C'est le quatrième cadeau que Dieu nous donne. Nous lisons dans Galates 6, les versets 5 à 7. Ne vous trompez pas vous-même, on ne se moque pas de Dieu. L'homme récoltera ce qu'il aura semé. Dieu a des intentions précises au sujet des relations dans lesquelles il veut que je m'investisse, du caractère qu'il veut me voir développer. Il veut vraiment que nous semions selon ses qualités, selon son caractère, ses capacités, dans notre vie et dans celle des autres personnes. J'aimerais vous encourager à prendre des notes personnelles et à faire une liste de toutes les choses que vous ne voulez plus jamais entreprendre et plus jamais semer dans votre vie ou celle des autres. Pour ma part, j'ai cette liste dans mon agenda, donc toujours sur moi. C'est une liste de choses absolument stupides que j'ai faites et que je ne veux plus jamais refaire. Je réalise que pour autant que je reste éveillée, je serai capable d'être ferme. Combien d'entre vous ont fait une liste des choses qu'ils ne veulent plus jamais faire? Vous devez commencer à en faire une, d'accord? Ensuite, Dieu a des buts, des projets pour votre vie. Que devez-vous entreprendre avant de mourir? Si un jour tu n'as rien à penser en particulier, commence à penser à cette question. Moi j'y pense souvent parce que je veux être sûre que j'aurai accompli tout ce que je dois accomplir avant de mourir. Denis, me diront certains, comment peux-tu savoir cela? Je peux le savoir parce que je pose la question à Dieu. Jésus dit, vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. Quelles sont les choses que tu dois faire dans ta vie avant de mourir? Si tu ne penses jamais à cela, tu n'es probablement pas réellement éveillé parce que tu ne te poses pas encore les bonnes questions. Quels sont les projets de Dieu pour ton conjoint ou futur conjoint? Quels sont les projets de Dieu pour tes enfants? Quels sont les projets de Dieu pour les relations, alliances que tu as dans ton église locale? Donc pour ton service dans l'église de Jésus-Christ? Quels sont ses projets pour ton service, ton ministère, sur ton lieu de travail? Quelle responsabilité as-tu, prends-tu en ce qui concerne ton pays ou le pays où tu vis? Je suis heureux de savoir qu'ici, dans cette salle, Il y a des personnes qui aiment assez la Suisse pour poser cette question-là à Dieu. Il y a des choses que moi, Denis, je dois faire aux États-Unis avant de mourir. J'en connais quelques-unes et ma vie ne sera pas complète tant que je ne les aurai pas accomplies. Alors la question est la suivante. Seigneur, comment m'entraînes-tu pour que je puisse les accomplir? Souvenez-vous, nous avons dit dans le premier enseignement que Dieu, comme un coach, utilise chaque joueur qui est en bonne forme. Donc, quelle est ta forme aujourd'hui? Dans quoi est-ce que Dieu peut t'engager? Si tu ne te poses pas cette question et que tu ne la poses pas à Dieu, tu ne sais pas ce que tu dois accomplir avant de mourir. Tu ne vas pas suivre l'entraînement. Cherchons maintenant l'engagement que nous voulons prendre mercredi. Père, je m'engage à assumer l'entière responsabilité de mes actes, sachant que nous planifions ensemble de semer des semences de vie et de bénédiction. La loi la plus importante depuis la création est cette loi qui concerne les semailles et les moissons. Car les idées ont des conséquences. Elles conduisent à des attitudes et à des actes. Tout ce que tu as fait dans ta vie était le fruit d'une idée. Sais-tu cela? Oui, les idées ont des conséquences. Quelles sont les idées que tu te permets d'avoir et que tu te permets de cultiver? Je peux dire, alors que j'ai 50 ans passés, que la plupart des gens ne savent pas pourquoi certaines choses leur arrivent. Par exemple, pourquoi est-ce que je tombe toujours amoureux de la mauvaise personne, disent-ils. Pourquoi telle chose m'arrive-t-elle régulièrement? Pourquoi est-ce que je retombe toujours malade? Pourquoi, pourquoi, pourquoi? Trois petits points. Et c'est à vous de remplir la suite. Ces personnes réagissent comme si toutes les choses leur arrivaient par accident. Mais ce n'est pas ce que la Bible nous dit. La Bible nous enseigne que la plupart des choses qui nous arrivent sont le fruit de ce que nous avons nous-mêmes semé. C'est dur à entendre. La question à se poser est la suivante. Qu'est-ce que j'ai semé ou planté qui donne ce fruit-là, ce résultat dans ma vie? La religiosité s'exprime par le désir de l'homme d'atteindre Dieu par son énergie propre. C'est mettre le blâme sur quelqu'un d'autre. Tous les gens religieux, dans toutes les différentes religions du monde, trouvent une ou des excuses pour les conséquences du péché. Ceci est un gros morceau. Je vous avertis, parce que ça touche les princes, les démons, au milieu de nous, même ici. Quel est le pouvoir grand, en vérité, derrière lequel nous nous cachons? C'est le pouvoir de mettre la faute sur les autres. Chacun de nous joue à cela. Certains en jouent même très bien. L'évidence qu'il y a un péché, c'est quand il y a une accusation. Nous le voyons déjà avec Adam. Adam dit à Dieu, « C'est la femme que tu m'as donnée qui m'a amené à commettre ce péché. » Entre parenthèses, est-ce que vous vous êtes déjà demandé comment cela a pu se passer? Est-ce qu'elle l'a coincée? L'a-t-elle obligée à manger de ce fruit? Est-ce qu'elle l'a battue? Est-ce qu'elle a attenté à sa vie? Peut-être qu'elle a utilisé un pistolet. Comment cette gentille petite femme a-t-elle pu faire cette chose-là, ce grand homme? Étonnant, non? Mais voyez-vous, Ève dit la même chose. Ce n'est pas de ma faute, c'est Satan qui m'a fait faire cela. En parlant ainsi, ils accusent Dieu. Adam a accusé Dieu pour la femme que Dieu lui a donnée, et Ève a blâmé Dieu parce qu'il a laissé Satan dans le jardin. Comment peux-tu savoir si tu vis une situation de péché? Entre autres, est-ce que tu accuses quelqu'un? Toute l'humanité joue au jeu de l'accusation. Prenons un instant pour parler de cette question de l'accusation au niveau international. Commençons avec le jeu psychologique, avec les théories de Freud. Il a dit, c'est à cause de nos parents que nous sommes dans un pareil chaos. Ce n'est pas notre faute, c'est le résultat de leur super-ego et de leurs valeurs dépassées. Ces choses ont influencé ma petite personne, ma petite libido personnelle. Ainsi, on a appris à dire « Je suis dans une telle confusion à cause de tous les complexes à tous les niveaux de mes parents. » En définitive, ce n'est pas de ma faute. C'est vraiment l'erreur, la faute de mes parents et de mon environnement. Ce dont j'ai besoin, c'est d'un psychologue très important que je paye 200 francs de l'heure pour que je puisse lui raconter toutes mes petites histoires. Lorsque j'étais encore dans le monde, j'ai fumé pas mal de joints. J'avais des amis psychiatres. Après plusieurs années de travail sur la connaissance de moi, j'avais appris à décrire ma propre névrose avec beaucoup de précision, mais je n'étais pas capable de changer. Alors bienvenue dans le freudianisme. Le marxisme, quant à lui, prétend que ce qui ne joue pas avec l'homme, ce sont les différences de classe. Un de mes amis m'a rappelé que c'est aujourd'hui le 80e anniversaire de la révolution russe. Cette révolution a tué bien plus de personnes que le régime nazi d'Hitler. Il y a eu environ 60 à 80 millions de morts dans notre siècle en Chine et dans l'ensemble du monde marxiste. Pourquoi sont-ils morts? À cause du jeu de l'accusation. Les leaders disent « Nous devons tuer ces gens-là afin que le monde puisse vivre libre ». Ça, c'est du déterminisme économique. J'ai été marxiste, donc je sais de quoi je parle. C'est un jeu d'accusation colossal. Si nous disons aujourd'hui, tout ce que je fais est le produit de mon conditionnement, c'est du comportementalisme. La question de l'évolution est aussi un jeu d'accusation. C'est le jeu de la supériorité et de l'infériorité par rapport aux ethnies. On dira par exemple, ma race est meilleure que la tienne ou ma race vaut moins que la tienne. Et nous avons aussi le jeu d'accusation chrétien. C'est un des plus grands jeux. Nous nous excusons en disant « C'est l'ennemi qui m'a fait faire cela. Ce n'est pas de ma faute. » Je peux vous assurer que souvent l'ennemi est à 100 lieues d'où vous êtes en train de mal faire. Nous accusons l'ennemi pour tout. Nous l'accusons pour le mauvais temps. Pour le chauffeur qui nous a fait une queue de poisson, lorsque nous sommes malades, même si nous avons mal géré la nourriture pendant les 10 dernières années, nous disons aujourd'hui, mais c'est le problème de l'ennemi, c'est pour ça que je suis mal. Cependant, je peux vous dire une chose concernant l'ennemi. S'il n'existait pas, les chrétiens l'inventeraient parce qu'il nous permet de jouer ce jeu d'accusation en utilisant des versets bibliques. C'est grave. Nos vies déchues se nourrissent de ce jeu de l'accusation. Rien n'est réellement de ma faute, c'est vraiment ta faute, la faute de tel et tel. Le point essentiel dans chaque situation, c'est de trouver rapidement qui je peux accuser. Et quelques-uns d'entre nous sont prisonniers de ce jeu-là. Si je pouvais vivre avec vous une journée entière, je pourrais vous démontrer 10, 20, 30 fois que votre motivation profonde et de savoir qui vous pouvez accuser pour ce que vous avez fait. Mais sans même pointer le doigt sur qui que ce soit, est-ce que quelqu'un d'entre nous ici connaît une personne qui joue encore à ce jeu de l'accusation? Allez, soyez courageux. Avouez que chacun de nous le fait au moins quelquefois. Toi et moi, nous jouons vraiment à ce jeu de l'accusation et Dieu veut et doit nous libérer de ce jeu. Lorsque nous jouons à ce jeu de l'accusation, nous n'apprenons strictement rien puisque c'est la faute de l'autre. Cela signifie que je vais traverser ma journée, cette année, en disant « Oh, mais pourquoi est-ce que ce gars-là me fait ça? Pourquoi est-ce qu'il me coince? C'est quand même injuste, regarde voir. Mais c'est de sa faute à lui. Moi, je ne voudrais pas marcher comme ça, mais lui continue à le faire. D'ailleurs, il l'a toujours fait, depuis que je le connais. Pourquoi ne me lâche-t-il pas un peu les baskets? S'il te plaît, arrête. Qu'est-ce que Dieu nous demande de faire? Il nous demande de lâcher prise. Il y a un geste à faire pour lâcher prise. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Pourquoi est-ce que nous continuerions à accuser et à blâmer les autres au lieu d'apprendre à lâcher prise? Nous devons apprendre au travers de nos erreurs. Je vous ai dit une fois que le pouvoir est gardé par les problèmes. Est-ce que tu aimerais avoir plus de pouvoir dans ta vie? Alors apprends à résoudre les problèmes de ta vie, car le pouvoir est gardé par les problèmes. C'est une grande vérité. Quels sont les problèmes dans ta vie? Quel pouvoir aurais-tu si tu savais les résoudre? Je crois que Dieu protège le pouvoir en permettant que des problèmes surviennent dans notre vie. Est-ce que tu sais, par exemple, pourquoi tu n'as pas 1 million de francs sur ton compte en banque aujourd'hui? Parce que si tu les avais, cela te détruirait. Sais-tu pourquoi tu ne peux pas ressusciter les morts? Parce que si tu savais, si tu pouvais faire cela, cela te détruirait. Dieu, dans sa grâce, nous protège du pouvoir en permettant que nous ayons des problèmes, car nous ne sommes pas encore prêts. Un exemple classique, c'est celui du fils prodigue. Ce fils-là a demandé à son père qu'il lui accorde son héritage sans attendre d'avoir été formé au niveau de son caractère personnel afin de savoir comment utiliser son héritage. Cela l'a presque détruit. Le pouvoir est gardé par les problèmes. Si tu veux avoir plus de pouvoir dans ta vie, tu dois apprendre à résoudre tes problèmes. Quels sont les problèmes que tu génères régulièrement dans ta vie? Demain, tu vas produire les fruits de ce dans quoi tu as investi ton énergie aujourd'hui. Nous avons accompli nous-mêmes la plupart des choses dont nous accusons les autres. Sommes-nous conscients de cela? Dans Genèse 1, Dieu se répète 10 fois parce qu'il sait déjà que nous allons élaborer cette théorie de l'évolution. Il dit « Tout se reproduit selon son espèce ». Bien sûr que je sais que si je plante des carottes, je ne vais pas avoir des patates. Ce que je plante, je vais le récolter. Quelques-uns d'entre vous ne comprennent pas encore ce dont je parle. Je ne vous blâme pas. Il nous revient à nous, enseignants dans le corps de Christ, de partager cela de manière juste. Vous avez probablement lu l'épître aux Galates, les chapitres 5 et 6, souvent. Vous avez entendu cela comme des versets bibliques, mais vous n'avez pas eu la moindre idée de la manière dont vous pouviez pratiquer cela dans votre vie, parce que c'est encore de la religion. Soyons pratiques. Quelles sont les lois que tu as violées qui produisent les fruits que tu vois, que d'autres voient encore dans ta vie? Vous allez trouver d'autres versets bibliques dans votre canevas. Je vous en cite quelques-uns. Hébreux 5, 14, 1 Corinthiens 9, 25, 27, Philippiens 4, 9, 1 Pierre 1, 10, Proverbes 6, 20, Deutéronome 6, 4 à 9, 1 Jean 1, 6, 1 Jean 3, 10. Il y a environ une dizaine de versets bibliques qui disent fondamentalement la même chose. La vérité ne fonctionne pas aussi longtemps que tu ne la pratiques pas, ou la vérité fonctionne lorsque tu la pratiques, l'exerces. Combien de fois dois-je exercer une prise jusqu'à ce que je la réussisse à chaque coup? Nous nous rappelons que Denis a fait une prise de karaté à Rolf. Rolf a essayé un grand nombre de fois de réagir de manière différente. Rolf aurait pu essayer de tomber comme un sac de patates. Peut-être aurait-il pu essayer de m'attraper en tournant sa jambe autour de ma jambe. Il aurait pu essayer d'utiliser sa main gauche pour me faire du mal au visage. Il aurait pu essayer des sorties différentes pour sortir de cette prise. On doit exercer ces sorties de prise des dizaines, des centaines de fois, jusqu'à ce qu'on les fasse très très rapidement. Aujourd'hui, j'en suis arrivée au point où je n'ai même plus besoin d'y penser. Il en est ainsi en sport, et c'est aussi comme ça que la vérité fonctionne. C'est ce que la Bible nous enseigne. Hébreux 5, 14 nous dit « La nourriture solide est pour ceux qui ont appris à pratiquer la vérité. » Alors j'aimerais te demander, quelle vérité as-tu pratiquée aujourd'hui? Quelle semence as-tu semée aujourd'hui? On pourrait dire au fond que chacune de nos pensées est une semence. Elle va produire quelque chose, un fruit. Comment pensez-vous que j'ai pu apprendre à connaître ces choses que je vous enseigne aujourd'hui? Pensez-vous que c'est parce que je suis allée écouter un enseignement? Oui et non. J'ai entendu, mais j'ai aussi appris la plupart des choses que je vous enseigne ici par le moyen des erreurs que j'ai commises, ou en observant de manière précise les erreurs que les autres ont commises, ou encore en étudiant ce que la parole de Dieu me dit par rapport à ces erreurs. Ma femme est là ce soir avec nous. Elle sait de quoi je parle. J'ai fait quelques erreurs avec d'autres croyants au début des années 80. J'ai fait des erreurs et c'est devenu terriblement compliqué. Ces erreurs que nous avons faites m'ont coûté 3 ans de ma vie, à plusieurs niveaux. Cela a mis la pression sur ma femme et sur ma famille. C'est à ce moment-là que Dieu m'a réveillée. Et j'ai saisi alors ce que signifie cette loi des semailles et des moissons. J'avais déjà essayé tout ce que je pouvais essayer pour me sortir de ces liens. Cependant, je n'ai pas pu en sortir avant que toute la récolte ait levé. Et au milieu de cette situation, Dieu m'a montré la loi des semailles et des moissons. Maintenant, vous devez comprendre que lorsque vous vous repentez, cela ne signifie pas que la récolte ne va pas continuer à lever. Elle va continuer à croître, parce que tout ce que vous avez semé va porter des fruits. Si tu dis, « Oh Seigneur, s'il te plaît, je le regrette vraiment, je me repens, je ne vais plus jamais recommencer. » Sais-tu ce qui arrive alors? La récolte continue à pousser, parce que tu as semé, parce qu'on ne se moque pas de Dieu. Sa loi reste immuable. Tout ce que tu sèmes, tu vas le récolter. J'ai vu quand cela arrive dans les couples. Prenons l'exemple d'un homme qui est insensé, qui trompe sa femme. Il est insensible aux sentiments de sa femme. Il sait qu'il agit mal. Un jour, il se repent et puis, maintenant, il espère que sa femme va de nouveau être toute heureuse, qu'elle va changer en un clin d'œil parce qu'il arrête de mal agir. Mais le problème, c'est qu'il a semé cette semence mauvaise et il reste encore des fruits dans la vie de sa femme. Il a arrêté de semer, mais il récolte encore les fruits pendant longtemps. Combien d'entre vous ont semé des choses mauvaises? Par la suite, ils se sont repentis et maintenant, ils sont en colère contre Dieu parce qu'ils récoltent encore des fruits mauvais. Ils disent peut-être, « Oh Seigneur, tu es vraiment cruel avec moi parce que j'ai arrêté. » Mais la semence est dans la terre et elle va continuer à grandir jusqu'à ce qu'elle soit toute sortie. Ce que vous pouvez demander à Dieu, c'est que dans sa bonté, dans sa grâce, il abrège le temps de croissance de la semence. Mais en règle générale, il laisse lever la semence jusqu'à sa pleine maturité. Pourquoi? Parce que Dieu veut vraiment que vous en ayez tellement, tellement, tellement assez de récolter de ce fruit, au point que vous n'allez plus jamais semer de cette semence. Quelle est la semence que tu ne veux plus jamais semer dans ta vie? Moi, j'en ai un bon nombre. Et je les ai inscrites. Abordons la question dans un autre sens. Quelle est la bonne semence que tu veux semer afin de récolter de bons fruits? Je paraphrase Ésaïe 48, les versets 17 à 19. Voici ce que l'Éternel dit. Celui qui a pris ta cause en main, le Saint d'Israël, le Seigneur te déclare ceci. Moi, le Seigneur, je suis ton Dieu. C'est moi qui t'enseigne ce qui doit être utile. C'est moi qui te conduis sur le chemin sur lequel tu vis et où tu sèmes. Ah, si tu avais bien écouté ce que je t'ai recommandé, un fleuve de bénédiction aurait coulé vers toi. Le salut serait venu à toi. Dieu veut vraiment que nous semions une bonne semence, une semence de bénédiction. Mercredi, je m'engage en disant « Je peux semer des semences de vie et de bénédiction. » Combien d'entre vous savent que quand vous êtes éveillé, vous réfléchissez à la semence que vous voulez semer durant la journée? Parce que vous savez aussi qu'un jour ou l'autre, vous allez en manger le fruit. Quelles sont les semences ou quelques-unes des semences que tu as plantées dans la vie de ton conjoint ou de tes enfants ou de tes parents, de tes proches? Quelles sont les semences dans tes pensées que tu t'es permis de semer? Est-ce que c'est ce que tu désires moissonner demain, dans une année, dans 20 ans? À quelle pensée donnes-tu de l'énergie? Dans quelle pensée investis-tu? Dans quelles attitudes investis-tu de l'énergie? Pour quelle relation, communion de relations investis-tu de l'énergie? Pourquoi? Quelques-uns d'entre vous ont des relations destructives avec certains amis. Pourquoi tenez-vous tant à elles? Pourquoi continuez-vous à semer dans ces amitiés-là? Vous devez vous poser ces questions très sérieusement. Est-ce que c'est une relation, une amitié dans laquelle je veux investir? Quel est le fruit de cette relation dans ma vie? Comment puis-je changer le fruit de cette relation? Quelle qualité de caractère est-ce que je sème pour le futur? Dans quel projet est-ce que j'investis SM? Et pourquoi est-ce que je fais cela? Quels sont les fruits mauvais que je suis en train de récolter actuellement? Que dois-je faire pour arrêter cela? La vérité que tu pratiques, c'est semer une bonne semence. Bienvenue donc dans le monde de la pensée stratégique. Est-ce que vous comprenez maintenant pourquoi le cœur de Dieu est brisé quand il voit comment nous vivons? Parce que nous nous levons le matin, nous traversons la journée dans un état de somnolence. Nous n'avons pas la moindre idée de ce que Dieu est en train de faire. Et puis nous jouons au jeu de l'accusation. Nous sommes inconscients des fruits que nous récoltons et nous ne posons pas les questions stratégiques importantes. Comme par exemple, « Père, quelle semence veux-tu que je sème aujourd'hui ?» Nous nous faisons prendre dans des prises desquelles nous ne pouvons pas nous défaire toujours à nouveau. Pourquoi? Qu'est-ce qui ne joue pas avec nous? Tu peux bien sûr me dire, « Écoute, Denis, de toute façon, je vais au ciel, alors laisse-moi tranquille. » Mais est-ce vraiment le genre de vie que tu veux vivre? J'espère bien que non. Je ne veux pas vivre comme ça pour ma part. Quelle est la semence que tu es en train de semer aujourd'hui? Que vas-tu récolter dans une année? Je suis plein d'expectatives par rapport à la semence que je sème jour après jour dans ma vie parce que Dieu ne permet pas que l'on se moque de lui. Sa loi reste la même. Il y a certaines semences que j'ai semées, je sais déjà de quoi elles vont avoir l'air dans un an, 2 ou 10 ans. Dieu nous a promis que si nous lui obéissons, si nous semons une bonne semence, nous allons récolter une belle récolte, grande comme les vagues de la mer. Elles viendront nous submerger toujours à nouveau. Ce sera un bon fruit. Chaque fois que je dis à ma femme, « Je t'aime, Jen », c'est un bon fruit. Chaque fois que je prie en langue, c'est un bon fruit. Chaque fois que j'interdis à des pensées destructives d'habiter ma vie, je plante un bon fruit et je peux m'attendre à avoir de bons fruits. Chaque fois que je pose les bonnes questions à Dieu, je sème vraiment une bonne semence. Petit à petit, ta vie, ma vie, notre vie est transformée de semences en récolte de bons fruits. Pour cela, vous devez et nous devons rester éveillés. Tu ne peux rien faire de tout ce que je viens de partager si tu n'es pas éveillé spirituellement. Voilà pour aujourd'hui. La question que je te laisse est, à quelle heure fais-tu sonner ton réveil demain matin? Souvenez-vous que c'est le soir qu'il faut choisir de régler le réveil. Est-ce que tu vas commencer ta journée demain en somnolent ou éveillé? Quelle semence vas-tu semer? Est-ce que tu vas entrer dans le jeu de l'accusation demain? Ou bien est-ce que tu vas assumer la responsabilité de tes récoltes? Que l'Éternel Dieu, que le Christ vous bénisse, qu'il vous encourage, que l'Esprit Saint vous motive et vous fortifie, afin que vous semiez une semence qui vous donne une récolte de bénédiction, une récolte de vie, qu'elle coule en bénédiction pour les autres. Mon privilège du mercredi est le suivant, et je le répète, je peux semer des semences de vie. Et mon engagement, c'est Père, je m'engage à assumer l'entière responsabilité de mes actes. Sachant que nous planifions ensemble de semer des semences de vie et de bénédiction. Amen.